Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos placées sous le signe de la bonne humeur et de la rigueur journalistique. Mais attention, rigueur journalistique ne doit pas rimer avec jargon journalistique. Déjà que vous avez été nombreux à nous écrire pour nous demander si l'expression « pied pendule », souvent utilisée par Céline Dacosta, revêtait un quelconque caractère érotique. Non, on veille depuis à parler normalement afin que vous puissiez toujours comprendre de quoi on parle. Il me reste donc à étendre cette consigne à ce qui se passe hors antenne, car durant la pub, lorsqu'elle réécrit son journal, certaines phrases de Céline Kallmann, présentatrice du 7h, pourraient prêter à confusion.
Je vais garder Emmanuel Macron pour clouter.
Alors, veillons à être un peu plus clair hors antenne aussi. Heureusement, debout les copains, ce n'est pas que l'impénétrable jargon journalistique, c'est aussi la clarté de Fabrice Dalmeida. Le monsieur Histoire d'Europe 1 qui, en cette journée mondiale du bonheur, va nous prouver qu'il n'est pas seulement historien, mais aussi philosophe.
Et sexologue, je crois.
Ou ça, je ne sais pas, Eva, ça, je ne sais pas.
Merci d'écouter Europe 1 en ce mercredi 20 mars. Il est 6h, excellent réveil à tous. Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 20 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
Des peines de prison ferme requises à l'encontre de 2 activistes antispécistes poursuivis pour avoir dégradé des boucheries et commerces des Hauts-de-France. Christian Estrosi demande au gouvernement l'interdiction de manifestations prévues dans sa ville le week-end prochain. Il s'est entretenu hier soir avec le Premier ministre. Et puis le cardinal Barbarin va se mettre en retrait de ses activités au diocèse de Lyon. Hier, le pape François a refusé sa démission.
Europe 1.
Ils ont entre 24 et 40 ans. 4 militants antispécistes comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir dégradé des restaurants, des boucheries, des commerces entre novembre et février. Ils encouraient 10 ans de prison. Le procureur a requis 10 et 6 mois de prison ferme pour 2 d'entre eux. Écoutez Laurent Rigaud, président du syndicat des bouchers du Nord, qui espère un jugement à la hauteur des préjudices et des pertes subies.
Bien sûr, on peut se dire que les sanctions à venir ne sont pas à la hauteur des 10 ans qui risquent. J'espère quand même qu'ils iront un petit peu en prison pour comprendre, surtout pour les prochains, parce que j'espère que ça va s'arrêter maintenant.
Les regrets, les excuses, le fait de dire on n'avait pas conscience des conséquences.
Alors j'y crois pas trop. Ils n'ont pas envie d'aller en prison, donc voilà, ils ont bien été préparés par leurs avocats. Néanmoins, on va attendre. Voilà, si ça s'arrête, s'ils ont compris le message des artisans bouchers, des alimentaires, si ça s'arrête, on a réussi. Et moi, j'aurais préféré clairement qu'on leur annonce qu'ils vont aller passer 2-3 mois en prison. Et là, j'ai un doute que ça va se passer comme ça. Nous, on ne cherche pas la bagarre avec personne, mais néanmoins, si jamais ça devait recommencer, on utilisera nous aussi des moyens de communication qui sont autres que ce qu'on a déjà fait. On espère que ça va s'arrêter.
Laurent Rigaud, micro-Europe 1 de Lionel Gougelon, jugement mis en délibéré au 8 avril prochain. Les grévistes de la prison de Condé-sur-Sarthe diront ce matin s'ils poursuivent leur blocage 2 semaines après l'agression de 2 surveillants par un détenu radicalisé. Christian Estrosi a demandé au gouvernement d'interdire les manifestations de gilets jaunes prévues dans sa ville le week-end prochain. Le maire de Nice affirme que sa demande va être examinée. Il s'est entretenu hier soir avec Édouard Philippe et Christophe Castaner.
Aux Pays-Bas, la piste terroriste est désormais sérieusement étudiée après la fusillade qui a fait 3 morts lundi à Utrecht dans un tram.
Oui, les enquêteurs ont trouvé une lettre. Certains membres de la famille du tueur auraient des liens avec des groupes de musulmans radicaux. Bref, c'est dans ce contexte que se déroulent aujourd'hui des élections provinciales, l'équivalent en France des sénatoriales. Le reportage de notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
Aux abords de certains bâtiments publics, seules de petites pancartes signalent l'entrée des bureaux de vote. Rob s'y rendra tout à l'heure, mais il ne veut pas de sécurité renforcée pour le scrutin.
En faisant du vélo hier, j'ai vu plus de policiers que d'habitude. Je pense qu'ils seront plus présents, mais ce n'est pas nécessaire. Ça va effrayer les gens qui vont se demander pourquoi. Y a-t-il une menace? Je ne pense pas.
La campagne électorale a été mise entre parenthèses depuis les tirs dans le tram, mais Chantal s'attend tout de même à voir les partis d'extrême droite progresser.
Peut-être que ceux qui doutent vont se diriger vers l'extrême droite. Ils vont se dire, ça arrive chez nous, c'est un musulman. Voilà ce qui arrive lorsqu'on laisse entrer les étrangers sur notre territoire. C'est sûr que ça va leur donner une raison supplémentaire.
Le gain ne devrait toutefois pas être important. Un sondage réalisé hier montre que malgré l'attaque du tram, 88% des Néerlandais se sentent en sécurité dans leur pays. Utrecht, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Retour en arrière dans l'état du Mississippi aux États-Unis. Le Parlement a adopté une loi sur l'avortement la plus contraignante du pays. Les législateurs de cet état conservateur ont voté l'interdiction de l'IVG dès la détection d'un rythme cardiaque chez l'embryon, autrement dit dès la 6e semaine de grossesse.
C'est aujourd'hui que l'association Amorce lance un appel aux collectivités territoriales pour lutter contre la pollution des eaux.
Oui, et notamment la pollution plastique. 60% de ce que l'on utilise finit dans la nature, une pollution situation qui pourrait être évitée grâce aux politiques ambitieuses. Marguerite Lefebvre.
Il se trouve presque partout dans notre quotidien et au bout de la chaîne, le plastique atterrit trop souvent dans les océans. Il y a les bouteilles jetées sur les plages, les mégots de cigarettes laissés dans les caniveaux et donc dans les égouts. Parce que oui, les filtres contiennent du plastique. Il y a aussi les machines à laver le linge qui envoient les microplastiques que contiennent nos vêtements dans les eaux usées. Toute cette pollution est évitable, selon Nicolas Garnier, le directeur général de l'association Amorce. Mais il faut pour cela que les collectivités locales, en charge du service public de l'eau, prennent enfin leurs responsabilités.
Les collectivités, elles ont plein de rôles à jouer en la matière. D'abord parce qu'elles peuvent jouer un rôle de sensibilisation sur l'éco-consommation. Consommer moins de plastique, ça fera toujours moins de pollution plastique. Deuxième élément, on va pouvoir créer des filières de recyclage des déchets de plastique. Et puis enfin, il y a des collectivités qui ont déjà lancé des procédures pour capter dans les réseaux d'eau usée, par exemple, les déchets plastiques à grande échelle.
Des collectivités qui captent ces déchets grâce à des filets qui ressemblent à des filets de pêche installés dans les réseaux d'eau usée. Des mesures comme celle-ci, il en existe, encore faut-il les mettre en place. Et le temps presse car le gouvernement s'est engagé à supprimer les rejets de plastique dans les océans d'ici 2025.
Marguerite Lefebvre.
Et puis, prenez un chewing-gum, Céline. On en parlait avec le docteur Marcel Ichou de l'importance de bien se laver les dents.
Et oui, journée mondiale de la santé bucco-dentaire aujourd'hui, un chiffre assez répugnant. Un quart des Français ne se brosse les dents que deux fois par jour ou même pas. Et pourtant, il faut le souligner, une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner de gros soucis de santé comme des problèmes cardiaques. Les précisions du docteur Christophe Lecard, chirurgien dentiste.
Être en bonne santé bucco-dentaire, c'est pas simplement ne pas avoir de caries et ne pas avoir de maladies gingivales. C'est garantir sa bonne santé générale parce qu'il y a une véritable incidence des maladies dentaires au niveau général. Si vous avez une carie qui n'est pas correctement soignée, eh bien, les bactéries présentes dans votre bouche vont pouvoir se greffer n'importe où dans votre organisme par l'intermédiaire de la circulation générale. Et c'est bien connu des sportifs de haut niveau. On peut avoir des tendinites qui ont pour origine une carie dentaire qui n'est pas correctement soignée. Le brossage, c'est deux fois par jour, matin et soir, avec une brosse à dents souple et un dentifrice fluoré.
Le docteur Christophe Lecard avec Sophie Echen. Et puis Mathieu, je sais que c'était votre passion lorsque vous étiez jeune. Le skateboard.
Ah, j'ai cru que c'était une cassette audio, c'est que c'était la cassette qu'on remontait avec un crayon papier.
Une partie de tennis.
Le skateboard.
Avec une baquette en bois.
Voilà. On était sûr qu'on connaissait pas.
Là, on était dans les années 60.
C'était du skateboard. Eh bien, il est désormais interdit la nuit sur la fameuse place du Magba à Barcelone. Les voisins se sont lassés du bruit des frottements des roulettes et de la planche qui claque sur le sol.
Eh bien, c'était intéressant comme information. Et moi, j'essayais de concocter un gag qui n'a pas été possible. Du coup, je n'ai même pas écouté. Merci, c'était le journal de Céline Kahneman, journaliste respectable à l'antenne, mais qui, lorsqu'elle pense son micro coupé, révèle une autre facette de sa personnalité. Probablement celle qui s'exprimait déjà quand, dans la moiteur du quartier rouge de Zurich, on la surnommait la tigresse insatiable. Die Untermisch Tigresse. Une facette qui s'est encore exprimée lundi durant la chronique innovation d'Anis Mbida.
Pouvoir utiliser la caméra du téléphone portable pour remplacer les yeux en quelque sorte.
Oui, on l'accroche autour du cou avec la caméra qui pointe devant soi. D'accord. Et ensuite, il y a un programme qui décrit tout ce qui passe devant l'objectif de la caméra. Si je sors un billet, par exemple...
Et si tu sors...
À demain, un zodiac de tigresse.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
Heureusement que j'ai diffusé après le journal et pas avant celui-là. Hein. À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et en cette journée mondiale du bonheur, Fabrice Dalméda nous retrace toute l'histoire de la philosophie du bonheur depuis les stoïciens. En 3 minutes, il est balèze, Fabrice Dalméda.
Bon réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Céline, le printemps est là et il s'incarne dans le ciel puisqu'il y a du beau temps, du soleil presque partout.
Oui, presque, car comme prévu, ça reste très nuageux ce matin près des côtes de la Manche, mais aussi des Pays de la Loire et l'Île-de-France où là on aura quand même quelques éclaircies déjà ce matin. Cet après-midi, les éclaircies seront un petit peu plus présentes au nord de la Loire, mais sous un ciel encore bien nuageux. Partout ailleurs, ce matin comme cet après-midi, du soleil qui va briller largement. Encore un peu de vent dans le sud-est. Les températures toujours fraîches ce matin. Attention, couvrez-vous. Par contre, cet après-midi, la moyenne grimpe doucement. 12 à 15 degrés jusqu'à 19 près de la Méditerranée.
Grimpons doucement avec vous, Céline Dacosta. Eva Rock.
C'est la journée mondiale du bonheur.
C'est quand le bonheur.
Et depuis ce matin, 5h, nos auditeurs nous disent ce qui les rend heureux. Eh bien, sur
vous,
Twitter avec le hashtag Europe 1. Eh bien, figurez-vous que Véronique, elle nous dit me réveiller en votre compagnie, mais aussi les levées et les couchers de soleil. Un bisou, un je t'aime, un merci. Tout ça, ça rend heureux. Merci beaucoup. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Quand il pénètre dans ce studio, tout le monde se raidit. On rentre le ventre, j'ai peur de se faire houspiller. On sait au fond peu de choses de notre coach sportif Jérôme Lacroix. Qui est-il vraiment ?
Un mâle, un vrai.
Oui, quel est son type de femme ?
C'est la Roumaine de Bucarest.
Oui, non, il est trop pudique, il est trop pudique pour le dire, voilà. Et surtout trop marié. Voici Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports. À la une, Jérôme, rendre le rugby plus sûr.
Fini les ruées, les violents plaquages à la Sébastien Chabal. De nouvelles règles vont être testées en France dès septembre après le décès de 4 joueurs en moins d'un an. Une partie du rugby mondial est réunie à Marcoussis, centre français, depuis lundi. On retient ces deux mesures pour la France. L'interdiction de plaquer un adversaire au-dessus du niveau de la poitrine sous peine de sanctions arbitrales et l'interdiction de se mettre à deux pour plaquer un vis-à-vis. Ce sera appliqué chez les amateurs, jeunes et adultes. Une phase de test dont Didier Retière, directeur technique national, tirera les conséquences.
Et vraiment, il y a un travail qui est très scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment tout mesurer, de voir quel impact ça a sur le temps de jeu, sur les formes de jeu, est-ce qu'il y a plus de plaquage, moins de plaquage, est-ce qu'il y a plus de pénalités, est-ce qu'il y a plus de gestes dangereux, parce que les gens s'adaptent. Hein, évidemment, les adaptations, on a du mal parfois à les anticiper.
Et si les tests sont concluants, l'instance qui gère le rugby international pourra décider de généraliser ces nouveautés, mais pas avant le prochain mondial à l'automne. En foot, les garçons ont été boutés hors de la Ligue des Champions. Vous le savez, il reste les filles, les Lyonnaises et les Parisiennes. Ce soir, Lyon-Wolfsburg, quart de finale aller, c'était l'affiche de la finale l'année dernière. Les Rodaniennes, faut-il le rappeler, sont triple tenant du titre. Les Parisiennes, elles, affronteront demain Chelsea.
Une bouffée d'oxygène pour le PSG côté garçon.
Oui, ils ne sont pour l'instant plus embêtés par l'Europe du foot sur le fair play financier. Vous savez, cette règle qui oblige les clubs à maîtriser leur budget sous peine de sanctions financières ou sportives. Alors après un premier verdict positif en juin dernier, les experts de l'UEFA étaient revenus à la charge en septembre, estimant que le cas parisien devait être réexaminé. Un appel trop tardif a jugé le tribunal arbitral du sport, plus haute juridiction sportive, qui a donc tranché hier en faveur du PSG. Vincent Chaudel, économiste, décrypte l'importance de cette décision pour l'avenir.
Le club se retrouve dans une meilleure position de négociation avec des partenaires, ce qui lui permet également de faire venir des grands partenaires comme le groupe Accor. C'est aussi un élément rassurant. Et donc, on peut espérer pour le club que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, d'autres sponsors viendront le rejoindre et lui permettront de continuer à avoir de grandes ambitions sportives.
Aucun blessé à déplorer pour les Bleus à Clairefontaine. Départ demain pour la Moldavie, théâtre vendredi soir du premier match des qualifications pour l'Euro 2020.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Elle dépote l'interview de Véronique Rabiot ce matin dans l'équipe. Véronique Rabiot qui gère la carrière de son fils Adrien Rabiot, jeune joueur au banc des Bleus, mais surtout mis à pied par le PSG, banni de son club, notamment pour être allé en boîte de nuit le soir de l'élimination en Ligue des Champions. Que veut le PSG ? Questionne la mère en colère. Qu'il se mette en pyjama à 9h pour aller au lit à 11h ? Alors elle dit son fils prisonnier, otage même du PSG. Elle se dit révoltée contre les dirigeants qui ont supprimé des primes d'éthique à son fils parce qu'il était absent d'un récent stage au Qatar alors que sa famille, dit-elle, venait de subir 2 décès.
Merci, c'était le Journal des Sports, toujours très complet, de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, GG, nous passons à la rubrique Histoire de cette matinale. Histoire et philosophie ce matin, puisqu'à l'occasion de la Journée mondiale du bonheur, Fabrice Dalméda va nous conter l'histoire de la philosophie du bonheur depuis les stoïciens. On rappelle en préambule qu'une des clés intangibles du bonheur, c'est de toujours faire preuve d'optimisme.
On est mercredi. Et bientôt le week-end.
Mais c'est vrai.
Plus fort que Platon, Céline Dacosta.
Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à toutes et à tous.
C'est donc aujourd'hui la Journée mondiale du bonheur, mais cette idée même de bonheur, elle date de quand ?
Bah en fait, les anciens n'y pensaient pas comme nous. En Grèce, dans l'Antiquité, l'idée du bonheur va au-delà des situations matérielles, voire des émotions. Le but est de parvenir à un intérieur stable et durable. Démocrite, par exemple, dès le 5e siècle avant notre ère, dit qu'il faut rechercher, tenez-vous bien, l'ataraxie. Littéralement, éviter les troubles, on dirait aujourd'hui, ne pas se prendre la tête. Après lui, Épicure reprend l'ataraxie, mais associée à la maîtrise de nos désirs. Et un siècle plus tard, des philosophes qui se réunissaient près d'une colonnade à Athènes, la Stoa, donc les stoïciens, vont plus loin que l'ataraxie. Ils prônent l'apathie, c'est-à-dire l'absence,
avec Jean-Michel, rassurez-moi.
Voilà. L'absence complète de Jean-Michel, non, l'absence complète de passion. Selon eux, il faut se priver de toutes les émotions, les bonnes comme les mauvaises. C'est la condition pour se sentir bien durablement.
Et ces philosophies antiques sont balayées par le christianisme.
Bah oui, avec le christianisme, la prière et les bonnes œuvres font la vie pieuse. Les conditions spirituelles sont les seules à conduire au bien. La vie sur Terre n'est qu'une vallée de larmes comparée aux joies de l'au-delà. Mais tout change en Europe à partir du XVIIe siècle.
Que se passe-t-il ?
Ben, des philosophes, les philosophes des Lumières, remettent l'accent sur les conditions sociales d'existence. Et donc les grandes révolutions qui vont suivre vont faire du bonheur un objectif politique. Droit à la poursuite du bonheur, dit la déclaration d'indépendance américaine de 1776. Et affirmation du bonheur pour tous dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'où l'adoption de la Journée internationale du bonheur par l'ONU depuis novembre 2013. Une manière d'affirmer que le bonheur collectif prime sur le PIB et les intérêts égoïstes.
Merci beaucoup Fabrice d'Almeida, philosophe autant qu'historien. Je me permets de préciser, puisque je ne fais pas que des blagues sur Jean-Michel Apathy, je renvoie, on pense ce qu'on veut de Michel Onfray, mais à une époque, il était prof, il l'est peut-être toujours d'ailleurs, il a écrit une contre-histoire de la philosophie qui est assez passionnante et intéressante sur cette notion de bonheur, et notamment sur la manière dont le christianisme a balayé les siècles, l'hédonisme effectivement, qui venait des pré-socratiques, et une philosophie très intéressante à redécouvrir avec Michel Onfray. Voilà, c'était mon petit message.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Or, en ce 20 mars, l'actualité, ce n'est pas que la journée mondiale du bonheur, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, sans oublier celle du comte, du macaron, du moineau et de l'alternative aux pesticides.
Eh oui.
Non, c'est aussi la journée mondiale de la francophonie. Pourquoi la langue française est un des plus beaux atouts culturels et économiques de notre pays à l'heure de la mondialisation ? Réponse à 6h20 avec Julien Soulier, membre du projet Voltaire et auteur d'un livre intitulé « Par humour du français », un fervent défenseur de notre belle langue, tout comme moi, on l'a encore constaté hier. Mais j'entends déjà leur puissant hennissement. D'ailleurs, la question se pose, d'ailleurs, je pense que je me suis piégé moi-même. Leur puissant, c'est une vraie question, ça, parce que c'est très moche, puissant. J'entends déjà leur puissant hennissement, et en même temps, le H, puissant hennissement, c'est encore plus moche. Donc c'est leur puissant hennissement. Ah oui, on peut pas... Là, il doit y avoir un truc. Oui, bon, allez, vite, la suite.
Il est 6h18, bon réveil à tous. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le maire de Nice, Christian Estrosi, réclame au gouvernement l'interdiction des manifestations prévues dans sa ville le week-end prochain dans le cadre d'un appel national des Gilets jaunes. Sa demande va être examinée. Le parquet de Lille a requis hier entre 10 et 6 mois de prison ferme à l'encontre de 2 activistes antispécistes. Ils sont poursuivis pour avoir dégradé ou incendié des boucheries, restaurants ou commerces des Hauts-de-France cet hiver. Jugement mis en délibéré au 8 avril. Enfin, le cardinal Philippe Barbarin a annoncé qu'il allait se mettre en retrait de ses activités au diocèse de Lyon, malgré le refus du pape François d'accepter sa démission. Il dit envisager un temps de silence dans un monastère.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 20 mars. 20 mars qui est aussi la journée internationale de la francophonie, l'occasion de mettre le français à l'honneur. Des bourdes, j'en ai fait, ou des bourdes, j'en ai faites. Des puissants hennissements de ses chevaux ou les puissants hennissements de ses chevaux. Comment se réconcilier avec l'orthographe et la grammaire ? Bonjour Julien Soulier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes auteur, vous participez au projet Voltaire, service en ligne de formation à l'orthographe. Alors on va commencer par là. Le cliché est un peu le suivant. Plus qu'un cliché, un sentiment diffus. Les jeunes, et je m'inclus dedans, sont de moins en moins forts en orthographe. Déjà, est-ce que ce constat est juste, Julien Soulier ?
Bon, je voudrais pas jouer les vieux grincheux, mais c'est vrai que
c'est vrai quand même qu'ils
ont de plus en plus de mal avec l'orthographe, avec la grammaire. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Selon une étude récente, un DRH sur deux considère quand même que l'orthographe est déterminante dans le processus de recrutement des entreprises. C'est donc que, quoi qu'on en dise, la maîtrise de l'orthographe reste, en 2019, primordiale au moment, en tout cas, de postuler un emploi.
Oui, parce qu'il y a en fait, il reste une forte pression sociale sur l'orthographe, sur la façon de s'exprimer, et les recruteurs, quand ils reçoivent un CV ou une lettre de motivation, eh bien, dès la première ou la deuxième faute, ça part à la poubelle.
Ça part à la poubelle direct,
parce qu'en fait, ils en déduisent. Alors, l'orthographe, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, et ils en déduisent à tort ou à raison que la personne ne sera pas forcément fiable, qu'elle sera pas sérieuse, qu'elle n'est pas respectueuse des règles, etc. Donc, il y a l'orthographe et puis il y a tout ce que ça cache derrière.
Alors, là où on voit qu'on a peut-être changé d'époque, c'est que moi, quand je reçois une lettre de motivation, ça m'arrive parfois, ce qui est fou, c'est que je saute au plafond et je m'enthousiasme quand il n'y a pas de faute d'orthographe. Parce que c'est devenu rare.
Oui, c'est devenu rare.
Je pense qu'à une époque, toutes les lettres de motivation, il n'y avait aucune faute d'orthographe.
C'est vrai, malgré les correcteurs orthographiques. Pourtant, on pourrait se dire avec les correcteurs orthographiques, mais non, les correcteurs orthographiques ne sont pas la panacée, et non pas la panacée universelle, mais la panacée. Et donc, il faut quand même, effectivement, maîtriser un minimum de règles pour pouvoir être compris, s'exprimer correctement, communiquer correctement. Finalement, c'est les c'est une espèce de bonne manière, en fait, l'orthographe et la grammaire. Mmh. C'est un respect des bonnes manières.
C'est un respect de
l'autre. On s'adresse à quelqu'un. Et bien, comme on lui dit bonjour, et bien là, de même, il faut respecter certaines règles pour que la communication soit à peu près correcte.
Est-ce que, vous en parliez à l'instant, le correcteur automatique n'est pas à l'orthographe ce que le GPS est à la pensée humaine ? C'est-à-dire qu'on est toujours assisté, donc on ne réfléchit plus à ce qu'on écrit, et donc du coup, on s'entraîne moins en orthographe.
C'est vrai qu'il y a des réflexes qui se perdent, il y a une méthodologie aussi un petit peu cérébrale, une espèce de rigueur qui se perd. Moi, je dis aussi parfois que c'est un peu ce que la calculette est aux mathématiques. Hein. Maintenant, on se sert souvent la calculette pour faire 3 fois 2, du moins les élèves. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça dans le correcteur automatique. Il y a une espèce de paresse un petit peu intellectuelle et cérébrale qui se crée.
Et puis parfois, il y a des petites surprises. Moi, une fois, j'ai voulu dire c'est bon, j'ai booké la nounou tout l'après-midi. C'est véridique. Hein. Il a mis c'est bon, j'ai violé la nounou tout l'après-midi. Ah, oui. Et ce jour-là, j'ai enlevé le correcteur orthographique. Et Baroque. Quoi.
L'Académie française, Julien Soulier, consent à féminiser les noms des métiers. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, enfin quand même, ça fait 25-30 ans que ça traîne cette histoire-là.
Mais pourtant, il y a des professions, vous le dites dans votre livre Par humour du français, il y a des professions qui sont mal disposées pour la féminisation. Médecin, médecine, ça marcherait
pas. Oui, c'est vrai que ça marche assez mal, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est ce que j'explique dans le livre. Quand on dit un financier, on se pose pas la question de savoir si c'est le banquier ou la petite viennoiserie qu'on trouve chez le boulanger. Donc c'est vrai que pourquoi pas la médecine ou la médecin ? Après tout, quel est le problème ? Je me souviens, moi, dans un salon du livre, une petite dame d'un certain âge qui était venue me voir en me disant « Vous en pensez quoi, vous, de écrivaine ? C'est moche, hein ?» Je dis « Bah écoutez, écrivaine, c'est pas plus moche que riveraine, foraine ou châtelaine.
Oui. » C'est vrai, il faut juste s'y habituer, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de ces mots, ils ne sont pas encore entrés
exactement,
dans
parfois on dit autrice aussi, mais oui, autrice, on dit bien animateur, peu, animatrice.
Mais voilà, animatrice, oui.
Qu'est-ce
donc
que c'est différent ? Et puis c'est un mot qui date du 14e et que Jean-Jacques Rousseau employait déjà. Donc plusieurs siècles après, il serait peut-être temps quand même d'accepter un petit peu tout ça.
Quelles sont les fautes courantes qui vous agacent le plus ?
Alors moi, les fautes courantes qui m'agacent le plus à l'écrit, c'est la confusion des formes en « et ». Alors ça, c'est vraiment le tonneau des Danaïdes chez les élèves, hein, c'est-à-dire ER, EZ, AIS, AIT. Alors là, c'est une espèce de grand loto. C'est, voilà, c'est, alors il faudrait faire un mission patrimoine pour les formes en « et » parce que c'est assez terrible.
Est-ce que vous avez des petits moyens mémotechniques pour nos auditeurs pour éviter les fautes les plus courantes ?
Alors pour éviter les fautes les plus courantes, j'allais dire, mais je suis pas sûr que ce soit un vrai moyen mémotechnique, l'idéal, ce serait d'avoir fait un peu de grec et de latin, parce que ça vous aide, mais bon, je suis pas sûr que ça en ait pas traumatisé quelques-uns pendant des années,
donc
on va laisser ça de côté. Non, ce qu'il faut, ce qui marche souvent, c'est le coup de la substitution.
Allons-y.
Par exemple, je ne veux pas la rentrée. Ça peut être la rentrée scolaire. Ou je ne veux pas la rentrée, la voiture dans le garage. Donc là, en plus, il y a une différence entre quand même la terminaison. Donc il suffit de remplacer par un verbe du troisième groupe. Je ne veux pas la faire, et puis hop, ER, et hop, emballer, c'est pesé.
Ah oui, d'accord, par un verbe du troisième groupe. Ben d'accord, oui. Je le note. Vous êtes également, Eval disait, l'auteur d'un livre « Baillé aux corneilles et 99 autres expressions qu'on n'a jamais vraiment comprises aux éditions First », où on apprend par exemple que l'expression « ne pas être dans son assiette » n'a aucun lien avec la gastronomie française.
Eh ben oui, c'est vrai qu'on est en France, donc forcément, on pense tout de suite à la nourriture et au bien manger. Eh ben non. Assiette, en fait, étymologiquement, c'est le même mot, mais il a un sens différent. En fait, l'assiette, c'est le fait d'être assis, donc d'être bien en équilibre.
Ah,
on parle d'ailleurs d'assiette encore pour les cavaliers sur leur cheval, hein, qu'ils ont une bonne assiette. Ou on parle aussi de l'assiette de l'impôt, pour parler de choses un peu désagréables sitôt. Bon. Donc, effectivement, ne pas être dans son assiette, c'est ne pas être dans son bon équilibre. Voilà. Et puis, on l'a associé effectivement à la nourriture, parce qu'en France, tout se termine par un repas.
Autre mystère que j'aimerais élucider avec vous, Julien Soulier, pour finir. À la queue leu leu. Est-ce que ça serait
Qu'est-ce
une histoire de loup ?
Et non, n'en déplaise à Bézu, paix à son âme. je connais mes grands classiques quand même aussi.
Je vois que monsieur est connaisseur dans tous les domaines.
Non, en fait, il s'agit. Alors, c'est vrai qu'on a le leu-leu, donc, qui est lui-même un petit peu à la queue leu-leu. Donc, on se dit, ce leu. Et en fait, le leu, L-E-U, c'est le vieux mot en ancien français qui voulait dire le loup. Et donc, à la queue leu-leu. Et le premier leu, c'était l'article. Donc, c'était à la queue le loup. Qui voulait dire à la queue du loup, donc en fait, parce que ces animaux ont la réputation de se suivre les uns les autres. Donc c'est devenu à la queue le leu. Ensuite,
voilà,
quand
Eva.
Le mot leu n'a plus été compris.
Et voilà, Eva, vous vous coucherez moins bête ce soir, et moi aussi d'ailleurs,
parce que
je ne le savais pas du
tout.
Oui, tous les jours une expression. Vous venez, on va faire une chronique. Merci beaucoup,
merci
Julien Soulier. Je rappelle le titre de votre livre, Par humour du français aux éditions La Librairie Viber. Merci beaucoup.
Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de l'inestimable David Doucan, la météo. Et cette fois, ça y est, promis, le soleil arrive.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore des nuages au nord de la Loire.
Oui, le plein soleil pour tout le monde, ce sera à partir de demain jeudi. Ces nuages accompagnés de brouillard sont assez denses. Dans l'après-midi, on aura quand même quelques rayons de soleil qui sont déjà présents ce matin des Pays de la Loire à l'Île-de-France. Partout ailleurs, ce sera du soleil pour tout le monde. Encore un peu de vent dans le sud-est et des températures qui, si elles sont bien fraîches ce matin, vont grimper cet après-midi 12 à 15 degrés jusqu'à 19 près de la Méditerranée.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos millimétrées, de grands éclats de rire, mais aussi d'analyses philosophiques puissantes, grâce à La fille cachée de Simone de Beauvoir et Paulo Coelho. Céline Dacosta qui hier s'emparait d'une énième étude sur le tabac pour nous livrer le fond de sa pensée. Une pensée qui, vous allez voir, repose sur une dialectique implacable que n'aurait pas renié Kant.
Fumer une clope, c'est 5 minutes de vie en moins, et un fou rire, c'est 10 minutes de vie en plus. Donc faut fumer des joints.
Ah, le raisonnement est imparable. Hein. Autre analyse, du moins on l'espère à suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent pour simplifier l'actu. Au programme ce matin notamment, le gouvernement et les chasseurs, et Paris, ville la plus chère du monde occidental.
Je tiens à préciser que la drogue, c'est mal. Vous écoutez Europe 1.
Vous faites bien de le rappeler.
Il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le saviez-vous, c'est la journée internationale sans viande aujourd'hui. En manger moins, c'est faire un geste pour la planète. Notre spécialiste vous explique dès le début de ce journal. La grève du zèle des douaniers continue, les files d'attente aussi, et les routiers en ont assez. Ils organisent une contre-mobilisation. Reportage à suivre. Les suites des violences samedi sur les Champs-Élysées, Christophe Castaner s'est expliqué devant les sénateurs. Ils n'ont pas été tendres avec lui. Compte rendu dans un instant.
Europe 1.
Cet événement existe depuis 1985, la journée internationale sans viande, et c'est aujourd'hui. Les experts affirment que pour nourrir 10 milliards d'humains d'ici 2050, tout en préservant la planète, il faudra diviser par deux notre consommation de viande rouge. Mais au fait, toutes les viandes ont-elles le même impact sur l'environnement? La réponse avec l'or d'Autriche.
Le bœuf et l'agneau sont les viandes qui contribuent le plus au réchauffement climatique. Ceux qui ont réduit leur consommation de viande le savent. Ces animaux émettent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. C'est pour tout cela que Nicolas, 25 ans, a banni la viande rouge de son alimentation.
Notamment les élevages qui concentrent, je crois, 20% des émissions de CO2. Ça a un fort impact. Je privilégie la viande blanche. Enfin, je mangerai plus de la viande quotidiennement. Que ça, c'est quelque chose qui est dépassé.
La production de ces viandes rouges est aussi très gourmande en eau. Pour produire 1 kg de bœuf, par exemple, il faut 13 000 litres d'eau, trois fois plus que pour le porc ou le poulet. Attention toutefois au poulet nourri au soja du Brésil, car pour produire ce soja, le Brésil coupe des milliers d'hectares de forêt en Amazonie. Cette Parisienne fait justement attention désormais à l'origine géographique de la viande qu'elle achète.
Je vérifie sa provenance et j'achète pas de la viande élevée en élevage. En batterie. Lorsque je vivais chez mes parents, je mangeais de la viande tous les jours. Désormais, j'ai 28 ans et je pense que je mange de la viande une fois par semaine peut-être.
La consommation de viande a baissé de 10% en France ces 10 dernières années.
Laure d'Autriche, la spécialiste environnement d'Europe. Les routiers en ont assez de se retrouver bloqués sur des zones de stockage, conséquence de la grève du zèle des douaniers français en prévision du Brexit. Alors, eux aussi, les routiers se mettent en colère et organisent des opérations filtrage, comme par exemple hier soir sur l'A16. Reportage Lionel Gougelot.
Tous les jours, à cause de ce mouvement de grève des douaniers, les camions d'Olivier Boulan se retrouvent coincés dans les files d'attente de centaines de poids lourds sur l'autoroute en amont du port de Calais ou du tunnel sous la Manche, pénalisés alors même qu'ils ne se rendent pas en Grande-Bretagne.
Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à bloquer tout le monde sur la route. Il faut effectuer, comme on dit, un filtrage des personnes qui vont en Angleterre. Aujourd'hui, nous avons des chauffeurs qui font du régional et qui sont restés bloqués plus de 4 heures sur la route parce qu'on ne leur demande pas où est-ce qu'ils se rendent.
C'est donc pour exiger une autre organisation de la régulation du trafic poids lourd en cas de grève que ces patrons routiers ont mené cette opération filtrage à la frontière franco-belge. Des patrons étranglés financièrement comme Sébastien Allan, transporteur à Boulogne-sur-Mer.
Nous aujourd'hui, les entreprises qui travaillent avec le port de Dunkerque, le port de Calais, on estime notre perte à 20% de notre chiffre d'affaires journalier. Ça fait quand même 15 jours que ça dure. Et là, le mouvement des douaniers, ils ont déclaré qu'ils allaient continuer jusqu'au 20. Donc ça veut dire qu'encore une semaine supplémentaire. On ne pourra pas continuer comme ça. Si ça continue, on arrêtera. Donc ce sera du chômage technique ou ce sera peut-être même de la fermeture.
Des transporteurs routiers victimes collatérales d'un conflit gouvernement-douanier. pour l'instant sans solution. À Guivelle de Lionel Gougelot, Europe 1.
La prime exceptionnelle Macron défiscalisée, cela faisait partie de sa réponse du 10 décembre à la crise des Gilets jaunes. 2 millions de salariés en ont bénéficié. En moyenne, ils ont chacun touché 450 euros. Et puis, il n'est finalement plus question de toucher à l'âge de départ à la retraite. Après ses déclarations allantes en ce sens dimanche dernier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a rétropédalé. Aucune modification de l'âge minimal n'est envisagée, a-t-elle lancé devant les députés.
À suivre dans ce journal, le ministre de l'Intérieur sur le grill. C'était hier pendant 3 heures devant la commission des lois du Sénat. A tout de suite.
Il est 6h34.
Europe 1.
Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Christophe Castaner a tenté de s'expliquer hier devant les sénateurs.
Oui, le ministre de l'Intérieur est devenu la cible privilégiée des oppositions. Et cela s'est vu hier pendant près de 3 heures alors qu'il essayait de répondre aux questions concernant le regain de violence samedi sur les Champs-Élysées. Adrien Beck.
Cerné par une trentaine de questions de sénateurs, tantôt précises, tantôt accusatrices, Christophe Castaner répond pied à pied. Défense d'abord d'un changement de la doctrine du maintien de l'ordre.
Depuis le 4 décembre, notre rencontre ici au Sénat, les choses ont changé. Nous n'avons pas baissé la garde et nous nous sommes adaptés aux méthodes des casseurs.
Défense encore du raté de samedi dernier. La mobilisation des forces de l'ordre était importante et nous avions prévu, assure le ministre, un tel niveau de violence.
Il n'y a donc pas eu en amont un problème d'anticipation. Nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement.
Le préfet de police, fusible trop facile à en croire les sénateurs, le républicain Michel Raison.
Je demanderai simplement au ministre de l'Intérieur de nous dire quand est-ce que l'autorité de l'État sera-t-elle retrouvée dans notre pays, car le vrai patron, ça n'est pas le préfet de police, mais ça bien le ministre de l'Intérieur.
Des sénateurs peu satisfaits par les réponses du ministre, Castaner persifle un président de groupe. C'est responsable, mais pas coupable.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Le ministre de l'Intérieur a aussi révélé que les casseurs avaient pour objectif de prendre à nouveau l'Arc de Triomphe samedi. Il a ajouté que les forces de l'ordre les en avaient empêchés. Des affrontements ont eu lieu cette nuit près d'un important site religieux en Cisjordanie, le tombeau de Joseph. L'armée israélienne a ouvert le feu alors que des engins explosifs avaient été lancés en direction de fidèles. Deux Palestiniens ont été tués. Et concluons ce journal par une bonne nouvelle pour les habitants de Talence en Gironde. Le maire vient de décider de baisser les impôts, comme quoi c'est possible. Stéphane Place.
Une diminution de 2,2% du taux des impôts locaux, une diminution en fait pour contrer une augmentation, celle du même niveau des bases prévues par l'État pour cette année. C'est le choix du maire de Talence, malgré les baisses de dotations qui ont affecté sa commune comme les autres et qui avaient alors engendré une hausse de la fiscalité locale. Aujourd'hui, pas de tour de magie, souligne Emmanuel Salaberry, mais des économies qui l'autorisent avec sa majorité municipale à prendre cette décision.
Ça veut dire que si on prend quelqu'un par exemple qui paye 1000 euros de taxe d'habitation, au lieu d'avoir une part communale qui passerait à 1022 euros, on va rester sur cette part-là. D'abord, il y a une politique de désendettement qui a été menée. Chaque année, on rembourse de l'ordre de 2 millions d'euros à Talence. Et bien, quand on n'emprunte pas, et ça fait 4 ans qu'on n'a pas emprunté, bien on diminue et le remboursement de la dette et le montant des intérêts. On a fait attention également à tout ce qui est le train de vie quotidien de la mairie, en tout ce qui était consommation. C'est également la non-augmentation de la masse salariale de la mairie, sans toucher au niveau de service public qui a été demandé. On a fait surtout ces efforts-là sur des postes d'encadrement, où on a, par exemple, rationalisé, là où il y avait 2 chefs de service, on n'en a mis plus qu'un. C'est pas forcément sur le service au quotidien.
Un maire qui souhaite que l'État se montre également exemplaire en matière de désendettement et d'économie. Talence, Stéphane Place, Europe 1.
Et enfin, mon cher Mathieu, c'est le printemps aujourd'hui.
Ah, bah
alors,
oui.
Quelle est la définition scientifique? Le printemps, je vais vous la donner. Le printemps commence au moment de l'équinoxe. L'équinoxe, vous le savez,
Le générique de C'est pas sorcier peut vous aider. Peut vous aider dans cette mission que vous êtes matin.
Avec plaisir.
De donner cette information.
Je me la suis lancée moi-même. Alors, le printemps commence au moment de l'équinoxe. L'équinoxe, c'est cet instant bien précis, ça arrive 2 fois par an, où le jour et la nuit ont la même durée. Eh bien, ça tombe le 20 mars depuis 2008. En 2007, c'était le 21 mars. En 2044, ce sera le 19. Oui. Et pour revenir à cet équinoxe du 21 mars, il faudra attendre 2102. Alors, 2102. Si vous voulez comprendre pourquoi, parce que là, je vous ai donné les faits, mais pas l'explication, je vous recommande d'aller sur europe1.fr. Vous recherchez l'article titré, tout simplement, « Pourquoi le printemps commence le 20 et non le 21 mars ?» C'est informatif, vous en ressortirez grandi.
Je vous prédis le prix Albert Londres dans pas longtemps, mon grand. C'était le journal de David Doucan, un journaliste dont le travail, si minutieux, si parfait, en tout cas en apparence, laisse imaginer qu'il a passé des heures à préparer ce journal. Qui pourrait croire que, comme les plus grands comédiens et humoristes, un auteur lui écrit en fait son texte qu'il découvre quelques secondes seulement avant l'antenne, et pourtant, écoutez.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce journal, hein ?
Ah mon Dieu, quelle horreur.
Quand il découvre un fait divers atroce, David est comme vous, surpris et horrifié. Allez, enchaînons avec celle qui a le mérite d'écrire seule sa météo, Céline Dacosta. Soleil, soleil, Céline.
Oui, c'est vrai, du soleil vraiment soleil, partout Céline. À partir vraiment. De demain.
C'est ça votre lancement?
Oui, c'était. Oui, effectivement, non, j'ai fait un peu court. J'ai fait très long pour vous et très court pour Céline.
Voilà, mais parce que je suis assez simple à résumer. D'ailleurs, si on rebondit sur le magnifique article que vous avez cité, on sait qu'à partir de jeudi, sur europe1.fr, on gagnera 4 minutes d'ensoleillement. Ouais. Donc, du soleil partout, une belle moyenne.
Il joue son rôle de Madame Météo jusqu'au bout, hein, David. Vraiment, vous êtes très impliqué ce matin.
Une belle moyenne. D'ailleurs, vendredi, plus belle journée de la semaine, puisqu'on aura aussi des températures très très douces. Sur ce, vous partez, c'est ça, David Doucan?
C'en est trop pour David Doucan qui préfère se retirer.
18 à 20 degrés cet après-midi, l'après-midi de vendredi. On va y arriver aujourd'hui. Du soleil quasiment partout, on a juste des nuages près des côtes de la Manche, des nuages assez compacts ce matin. Les éclaircies, ça sera pour cet après-midi, mais avec toujours un ciel nuageux. Pour les autres, grand soleil, on l'a déjà dit, du vent dans le sud-est et des températures qui seront très fraîches le matin et douces l'après-midi. Donc on garde sa petite laine ce matin.
Merci Céline, merci beaucoup.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques s'apprêtent à vous livrer leur vision, parfois choc, mais toujours argumentée, de l'actu. Et puis bien sûr, nous reviendrons, même si c'est douloureux, sur la sortie de route humoristique, le Waterloo comique d'Axel de Tarlet, auteur en toute fin d'émission hier d'une blague qui, disons, n'a pas eu l'effet escompté.
Ça fait flop.
Eh oui.
Bon réveil à tous, il est 6h41. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Hier, devant les sénateurs, Christophe Castaner a révélé que les casseurs avaient pour objectif de prendre à nouveau l'Arc de Triomphe. Samedi dernier, le ministre de l'Intérieur a ajouté que les forces de l'ordre les en avaient empêchés. L'Assemblée nationale a voté hier la suppression du numerus clausus pour la rentrée 2020 et du concours couperet limitant le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine, l'une des mesures phares du projet de la loi santé. Enfin, des affrontements ont eu lieu cette nuit près d'un important site religieux en Cisjordanie, le tombeau de Joseph. L'armée israélienne a ouvert le feu alors que des engins explosifs avait été lancé en direction des fidèles. Deux Palestiniens ont été tués.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Céline Dacosta pour la météo. Si nous sommes réunis ce matin devant le cercueil humoristique de notre ami et confrère Axel de Tarlet, c'est suite à ce terrible accident survenu hier. Accident qui n'a laissé aucune chance au truculent dauphin d'or qui, alors que nous finissions la séquence, a voulu tenter un virage humoristique et a fini non dans le vide, mais pire, dans le bide. Tout est allé vite, trop vite.
J'avais une astuce pour clôturer la chronique. Eh, votre histoire, c'est un casse-tête pour Castaner. C'est nul. Eh ben oui, sacré casse-tête pour Castaner.
Ça fait flop.
J'aurais pas dû la faire, la casse-tête de Castaner, c'est tombé à plat. Mais vous auriez pu rire.
Oui, c'est vrai. On aurait pu, mais ça aurait été moins drôle du coup. Allez Axel, remettez-vous. C'est encore plus drôle. Remettez-vous de vos émotions. On commence par la politique avec évidemment Mickaël Darmon. Mickaël, le lancement de la campagne européenne pour la liste Renaissance soutenue par La République En Marche est prévu pour la fin de la semaine prochaine, mais la chasse aux électeurs est déjà ouverte. Pour séduire le milieu rural, une partie importante va se jouer aujourd'hui. Où ça exactement?
Eh bien, au congrès des chasseurs, justement. Hein, on sait que c'est un lobby, un corps intermédiaire particulièrement chouchouté par le président de la République. Donc, que va-t-il se passer aujourd'hui donc à la mutualité? Eh bien, quatre ministres vont venir plancher devant les chasseurs. Et je peux vous dire qu'ils seront bien accueillis, hein, parce que les promesses du candidat Macron, eh bien, toutes les cases sont cochées, tout y est, ou presque. Alors, ce relais d'opinion à droite dans le monde rural se dit prêt aujourd'hui à renvoyer l'ascenseur et à donner des consignes de vote en faveur de la liste macroniste. Et c'est pas anodin, hein, parce que vous savez comment surnomme la puissante fédération des chasseurs le dernier parti stalinien. Ça, c'est l'humour provocateur de Thierry Coste, leur chef. Bref, c'est pour mettre aussi en avant une organisation qui est quadrillée dans le pays et qui est très disciplinée.
Donc, après avoir envoyé des ministres défiler pour le climat, Emmanuel Macron en envoie d'autres flatter les chasseurs.
Et voilà,
le en même temps, toujours à l'heure.
Voilà, le nom des moindres, hein, les ministres. Hein. Vous avez François de Rugy qui sera quand même présent, Emmanuel Wargon qui sera là également, Sébastien Lecornu, quant au ministre de l'Agriculture, bien lui, il va faire le discours d'ouverture. Vous l'avez dit, effectivement, c'est là en même temps qu'est est toujours à l'œuvre, mais enfin quand même avec un net avantage à droite tout de même, parce qu'Emmanuel Macron poursuit méthodiquement le projet de siphonner des électeurs issus de nos différentes composantes de la droite. Les centristes pro-européens, on le sait, sont déjà arrimés à la majorité. Avec les chasseurs, ils ciblent le monde rural, partagé entre la droite et le Rassemblement national. En câlinant les chasseurs, le président de la République veut aussi montrer sa gratitude, parce que vous savez que dans les domaines de chasse, eh bien les gilets oranges ont contenu les gilets jaunes, et ça a effectivement évité pas mal de débordements. En ciblant les chasseurs, Macron regarde déjà au-delà des élections européennes.
Merci beaucoup pour cette analyse sur la politique, Mickaël Darmon. On passe à l'économie et strictement l'économie avec vous, Axel de Tarlé.
J'ai un sujet très sérieux.
C'est officiel, la ville où le coût de la vie est le plus élevé au monde, est Paris.
Oui, exactement, c'est un rapport assez navrant qui émane de la cellule de recherche de The Economist. Voilà, j'ai là le rapport.
Mais ça m'étonne, vous êtes déjà allé à Genève ?
Oui, et ben justement, cher, hein. Paris est passé devant Genève. Voilà. Cette étude a passé au crible le coût de la vie, c'est-à-dire le loyer, mais aussi la nourriture, le coût d'un tailleur, d'un costume chez le tailleur, le coût d'un coiffeur, etc. Donc ils ont passé tous ces prix au crible. Et à la fin, eh bien, la ville où le coût de la vie est le plus élevé au monde, c'est Paris, qui est à égalité avec Singapour et Hong Kong. Genève est dans le top 10. Alors je l'ai là, mais Genève est derrière Paris. Paris qui est devant Tokyo, qui est devant New York, qui est devant Londres, qui est devant Los Angeles. Paris a gagné 7 places en 2 ans. Alors, il y a évidemment des effets monétaires, si vous voulez, comme l'euro a monté. Évidemment, le coût de la vie à Paris apparaît plus élevé que le coût de la vie en Suisse, où le franc suisse a moins monté ces 2 dernières années. Mais note le rapport, alors je vous cite le rapport des économistes, Paris reste extrêmement cher. Alors, il note que seul l'alcool, le transport et le tabac offre une valeur ajoutée par rapport à d'autres villes européennes. Non, mais c'est quand même une gifle.
C'est bien français, ça.
Oui, mais c'est quand même une gifle, ce rapport, parce que les Parisiens ne sont évidemment pas les gens les plus riches du monde, mais ils vivent dans un environnement où tout est cher, sauf l'alcool et le tabac, c'est quand même assez navrant.
Axel, si vous prenez les autres villes, par exemple Hong Kong et Singapour, hein, les deux autres premières,
ce sont des villes
d'État. Salaires, et puis surtout, les salaires à Hong Kong et Singapour ne sont pas du tout les mêmes salaires qu'à Paris. Le salaire moyen, j'imagine, si on n'a pas la statistique sous la main, mais si on vérifie, ça n'a rien à voir avec le salaire des Parisiens. Mais, donc il y a un vrai problème.
Mais c'est pour ça qu'il y a un vrai problème. C'est une gifle, notamment pour les jeunes, parce que les jeunes qui arrivent dans la capitale, eux, ils n'ont pas profité de la hausse de l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de cadras aujourd'hui qui ont acheté quand c'était pas cher et qui aujourd'hui font une petite plus-value. C'est pas le cas des jeunes qui
petite,
se prennent.
Voire une énorme plus-value.
Qui se prennent le mur de on leur dit pour acheter ces 10 000 euros du mètre carré ou pour louer, c'est hors de prix. Et il nous faudra au passage la caution des parents, la fiche de paye, etc. Ce qui veut dire qu'il faut avoir de l'argent et des parents qui en ont également. Bref, c'est une chape de plomb qui s'abat sur notre avenir. Mais c'est un sujet très sérieux. Il y avait une grande enquête dans le New York Times qui montrait que cette hausse des prix de l'immobilier, alors en Angleterre, en plus, ils ont la hausse des coûts des études, faisait que toute la jeunesse devenait anticapitaliste en disant « Cette société ne nous fait plus de place, elle nous éjecte aujourd'hui. »
Merci beaucoup, Axel, même si c'est
il est gratuit en ligne, tiens, ce rapport.
Intéressant, allez consulter. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ?
Un homme parfait sur France 2 à 21h. C'est un téléfilm inédit, adapté d'un roman lui-même inspiré d'un fait réel. Un homme parfait, c'est le récit d'une mère de famille qui s'oppose à son mari incestueux. Alors autant vous dire que j'appréhendais cette fiction sur un tel sujet. L'histoire de Daphné, donc, elle est maman de 2 petites filles, souvent absente du domicile pour son boulot. Et son mari, parfait, s'occupe des enfants jusqu'au jour où l'aînée avoue à sa maman que son père abuse d'elle, avant de revenir sur ses propos dès le lendemain.
Ça s'est bien passé, la discussion avec papa ?
Je me suis trompée. J'ai vu papa tout nu, après j'ai tout inventé. Je te demande pardon, je suis vilaine. Je mentirai plus jamais, mais là, faut que je me couille.
Et une mère de famille totalement déboussolée qui va tenter de prendre conseil auprès de sa sœur.
J'ai vraiment eu l'impression qu'elle récitait une leçon.
Non, mais c'est pas possible ce que tu me dis.
Je sais, c'est pour ça que je t'appelle. Tu crois qu'il est capable de faire du mal aux petites ?
J'ai du mal à m'imaginer, enfin, Maxime, faire un truc aussi horrible. Et puis Daphné, il y aurait eu des signes.
Je sais pas qui croire.
Alors, certes, le sujet est difficile, mais son traitement, autant vous le dire, est réussi. Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il y a une tension psychologique tout au long de la fiction, avec quelques moments très durs, mais qui sonnent justes. Et puis, tous les aspects de la manipulation psychologique sont abordés. Et surtout, l'interprétation est remarquable. Alors, celle de Loïc Corbery dans le rôle du père, et avant tout, celle d'Odile Wilmain dans celui de Daphné, la comédienne qu'on avait découverte dans la série Profilage sur TF1, enchaîne les rôles complexes avec talent, avec intelligence. Et une fois encore, elle porte à bout de bras cette histoire non sans émotion. Ça s'appelle Un homme parfait sur France 2 à 21h et je vous le recommande grandement.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. Eh bien l'équipe des Trois Fantastiques sera ma foi de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains va bientôt s'éclipser pour laisser la place à l'auguste athénien Nikos Aliagas, qui devra néanmoins affronter dignement, comme chaque matin, l'épreuve du débrief de sa matinale de la veille. C'est né d'ailleurs, notons-le, que durant cette matinale, aux alentours de 8h47, que Céline Dacosta a enfin compris, avec un peu de retard, la vanne ratée d'Axel de Tarlé. Une deuxième chance peut-être pour le dauphin malheureux.
Le casse-tête de Castaner. C'était nul.
Ah non, encore raté. Caramba, à tout de suite pour le débrief.
Il est 6h52. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains s'achève, l'heure du passage de flambeau a sonné et Nikos Aliagas le sait, le meilleur est à venir. Le débrief de sa matinale de la veille. Et ce matin, dans un premier temps, je vous confesse que j'étais un peu déçu. À première vue, rien de très folichon. Comme dirait Laurent Cabrol, on s'acheminait vers un petit débrief. Alors, je dirais avec les classiques, Martin Fenot sur une voiturette dans un haut lieu du naturisme avec Nikos qui fait semblant de l'envier, avec son fameux « Quelle chance !» acteur studio.
Vous êtes où ce matin, Martin ?
Alors Nikos, bonjour, je suis au volant ce matin d'une voiturette.
Une voiturette.
Sur un green de golf impeccable au Cap d'Agde.
Quelle chance !
Quel acteur, surtout quel acteur. Business as usual donc, les tribulations de Fenot, une vanounette bien sentie de David Abiker.
Les déboires du médecin qui rallongeait les verges, je ne développe pas parce que je ne veux pas faire trop long.
Voilà, bon, pour tenir mon timing, j'aurais pu compter sur un petit lapsus de Laurent Cabrol, toujours prolixe en la matière.
Les températures maximales entre 11 et 14 degrés, donc on serre les doigts si on n'aime pas la pluie, on serre les pieds, pardon.
C'est pas grave.
Oh non, fondamentalement, la plus de plus, quand on en est au 76e, ça ne change rien. Bref, je m'attendais à un débrief classique quand soudain, Hélène Zelani est arrivée. Alors non, à la régie, ce n'est pas du tout la musique qui convient pour décrire Hélène Zelani, qui durant sa folle jeunesse n'était pas vraiment du genre à prier le dimanche à l'église en écoutant du gospel, mais plutôt du genre pogo dans la fosse de Bercy à acclamer NTM. Fatalement, quand on a appris hier matin que NTM s'était bel et bien fini et qu'on a diffusé quelques extraits, 25 ans après, tous les souvenirs d'Hélène sont remontés d'un coup et j'estime qu'il serait dommage de priver nos auditeurs de l'album collector qui s'est façonné hier en direct, hors antenne. Découvrez, Zelani chante NTM.
J'arrive.
Zelani chante NTM, c'est aussi Laisse pas traîner ton fils.
Si tu veux pas qu'il glisse.
Sans oublier bien sûr Sansonny Style.
À base de pop 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 et pour le hip hop je débloque la Sansonny, c'est de la bombe baby.
Croquant la carte de presse pour la chaîne en or et les Merco Benz, MC Zelani lâche les chevaux en n'hésitant pas à reprendre les textes les plus engagés du duo mythique du 9-3.
Passe le ouinge. Il y a du monde sur la corde à linge.
Yes! Ah, Hélène, j'ai Arnaud Lagardère pour vous.
Vous êtes sûr que c'est pas Joe Star?
C'est peut-être encore plus dangereux.
Je ne sais pas
ce qui est le mieux.
Un malentendu, c'est peut-être Joe Star qui veut la produire.
Mais oui.
Vous êtes en grande forme et vous nous faites du bien, Mathieu Noël, les Baroques. Merci les amis, à demain.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.